Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous propose Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Orange.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Depuis que les électeurs britanniques ont décidé au mois de juin 2016 que leur pays allait quitter l'Union européenne, le monde se croit menacé d'un retour des politiques protectionnistes. Mais c'est l'élection de Donald Trump à la présidence américaine qui a mis le nationalisme économique tout en haut de l'affiche. Écoutez ce que le nouveau président américain disait lors de son discours d'investiture le 20 janvier dernier.
We assembled here today. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour émettre un décret qui va être écouté dans toutes les capitales étrangères et dans tous les lieux de pouvoir. À partir de ce jour, c'est une nouvelle vision qui va gouverner notre pays. Ce sera l'Amérique qui passera d'abord. Toutes les décisions en matière de commerce, de fiscalité, d'immigration seront prises au bénéfice des travailleurs américains et des familles américaines. Nous devons protéger nos frontières des ravages des autres pays qui fabriquent nos produits, qui volent nos entreprises et qui détruisent nos emplois.
And destroying our jobs.
Une philosophie économique et politique qui va à l'encontre de tous les accords internationaux négociés au cours des dernières décennies. Lors de la dernière réunion de Davos, le président chinois Xi Jinping lui-même défendait la mondialisation et François Hollande, le président français en déplacement au Chili, disait à peu près la même chose.
Nous sommes tout à fait opposés au protectionnisme. Nous sommes pour une mondialisation régulée. Nous sommes pour qu'il y ait des normes sanitaires, sociales qui puissent être posées dans les échanges entre les pays, entre les régions du monde. Mais le protectionnisme est la pire des réponses. C'est celle qui, en définitive, empêche les échanges, nuit à la croissance et affecte l'emploi, y compris dans les pays qui prônent le protectionnisme.
Alors la volonté de Donald Trump de relancer une politique protectionniste sera-t-elle vraiment suivie d'effet ? Quel impact pour l'économie américaine et pour le reste du monde ? Trump plus Brexit, est-ce que cela signifie que le libre-échange a vécu ? À quand remontent les dernières grandes vagues de politique protectionniste ? Voilà quelques-unes des questions que je vais poser aux trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Akiko Suwa-Eisenman.
Bonjour.
Akiko Suwa-Eisenman, vous êtes professeur à l'École d'économie de Paris, directrice de recherche à l'Institut national de la recherche agricole, l'INRA. Vos travaux sont consacrés pour l'essentiel à l'impact de la libéralisation économique sur les économies en développement et sur les ménages qui vivent dans ces pays-là. Vous travaillez, par exemple, en ce moment, sur les mesures commerciales du gouvernement indonésien et vous montrez que les ménages les plus modestes sont très sensibles aux politiques qui régissent les importations alimentaires, c'est-à-dire les politiques commerciales, les droits de douane, etc. C'est ça dont vous parlez dans vos recherches ?
Tout à fait. Le commerce et l'inégalité, c'est vraiment quelque chose qui est derrière le discours de Trump qui veut défendre les travailleurs. C'est quelque chose dont les économistes se sont emparés, surtout pour les étudier, pour les pays en développement, parce qu'à l'époque, les pays en développement, le commerce avec les pays du Nord était très important, et on pensait que la Chine, tout ça, c'était avant l'essor de la Chine, on pensait que les pays en développement pour les pays industrialisés, c'était des miettes, c'était pas très important. Donc les économistes ont toujours étudier l'impact du commerce sur les inégalités et la pauvreté, mais dans les pays en développement. Et là, tout d'un coup, cette question revient en boomerang sur les pays industrialisés.
À vos côtés dans ce studio, Pascal Leprêtre, bonjour.
Bonjour.
Pascal Leprêtre, vous êtes une des responsables de la Fédération Forge, Fonderie, Moules et Prototypes de France. C'est une fédération qui regroupe, vous me direz si je me trompe, des entreprises du secteur de la métallurgie. Au total, 43 000 salariés dans vos usines en France. Cette volonté protectionniste du président Trump, le Brexit, c'est un environnement économique inquiétant pour les entreprises qui sont affiliées à votre fédération ?
Alors, je voudrais rappeler que la plupart des entreprises de nos secteurs d'activité sont des entreprises de sous-traitance industrielle. Être sous-traitant, ça veut dire que vous ne définissez pas vos produits, vous les élaborez sur un cahier des charges de grands donneurs d'ordre. Donc, ces grands donneurs d'ordre, ce sont les secteurs de l'automobile, du ferroviaire, de l'aéronautique et bien d'autres.
Alors, avec nous dans ce studio, et je termine ce premier tour de table par vous, Benjamin Coria, bonjour.
Bonjour.
Benjamin Coria, vous êtes professeur d'économie à Paris 13, membre du collectif des économistes atterrés, qu'on situe plutôt à gauche, donc en principe plutôt hostile aux excès des économies de marché. Vous devez donc être très satisfait de voir que quelqu'un comme Donald Trump donne un coup de pied dans la fourmilière et met en place des politiques économiques protectionnistes.
Pas du tout pour ce qui nous concerne, mais en tout cas pour ce qui me concerne au sein des économistes atterrés, mais je pense que c'est un point de vue partagé. On a dénoncé les excès de la déréglementation, en particulier la déréglementation financière. On était tout seul, pratiquement, on était très peu nombreux, et on avait bien raison, puisque ça a donné la catastrophe de 2008. Ceci dit, ça signifie pas pour autant qu'on est des défenseurs du protectionnisme. On est certainement pour une économie mondiale mieux régulée, hein, avec des accords plus solides, en l'occurrence des protections, en tout cas des mesures environnementales et sociales dans l'échange international nous paraissent essentielles, mais on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Alors dans cette émission des reportages, bien sûr, nous irons au Mexique, très vite rejoindre Émilie Barraza, au Nigeria, où nous attend Moïse Gomis, et à New Delhi en Inde, avec Sébastien Farcy. Retrait des États-Unis du traité transpacifique qu'avait signé Barack Obama, renégociation du traité commercial qui unit depuis une vingtaine d'années les États-Unis, le Canada et le Mexique, taxation des voitures fabriquées au Mexique pour forcer le rapatriement des usines aux États-Unis, telles sont les premières mesures, décisions annoncées par Donald Trump en une semaine. Est-ce que c'est ce qu'on appelle, Akiko Suhuizenman, une politique économique protectionniste ?
Tout à fait. Et c'est surtout un changement de contexte, un changement de paradigme, un bouleversement. Donald Trump a fait un petit aller-retour en proposant une taxe de 20% sur les importations du Mexique. Et ça, une petite phrase anodine, ça met juste simplement à bas l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire des règles de droit. On peut dire que ces règles de droit sont des règles perfectibles, bien sûr, mais c'est un monde juridique qui a été constitué par tous ces pays. Il passe à une règle unilatérale. Hop, les États-Unis décident ce qu'ils veulent. Et ce changement de contexte et apporte une énorme incertitude et démontre aussi, par ailleurs, l'ignorance des conseillers économiques de Donald Trump, parce que un tarif sur les importations, c'est payé par les consommateurs américains et pas par les Mexicains, en l'occurrence.
C'est-à-dire que cette mesure protectionniste d'imposer 20% de droits de douane aux produits fabriqués au Mexique qui viendraient, ça nuit aux consommateurs américains plus qu'aux producteurs américains, plus qu'aux producteurs mexicains.
Ça va nuire aux consommateurs américains. Ils vont devoir payer plus et ça va nuire aussi aux producteurs américains dans le sens où, alors là, contrairement à la Chine sur laquelle on parlera peut-être plus tard, il y a eu une véritable intégration des systèmes de production en Amérique du Nord. Donc en fait, par exemple, les pièces détachées des voitures passent leur temps à passer de part et d'autre de la frontière. Donc les importations, dans ce monde-là, les importations ne sont pas mauvaises, les importations servent à exporter. Et ça, je crois que Donald Trump n'a pas encore compris ce fait. Et beaucoup d'autres, d'ailleurs.
Akiko Suhuizenman, Benjamin Coria disait à l'instant que c'était la mort de l'Organisation mondiale du commerce. Vous partagez ce point de vue ?
Oui, je crois que l'Organisation mondiale du commerce est en danger, incontestablement. On ne sait pas encore jusqu'où est prêt à aller Trump. Ce qu'on sait, c'est qu'il vient de mettre à bas l'ALENA, c'est-à-dire l'accord Canada-Mexique-États-Unis, en renégociant de manière unilatérale les règles avec le Mexique, disant qu'il ne va pas toucher au Canada, mais sauf que le Canada va vouloir toucher. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il vient de se retirer du traité transpacifique et reste donc l'OMC. Il est probable, hein, s'il continue dans cette ligne, qu'il va effectivement mettre à bas les règles de l'OMC. Et donc à ce moment-là, moi je partage le point de vue de ceux qui pensent que c'est très grave. Parce que l'OMC est plus que perfectible, il n'y a aucun doute là-dessus, elle était bloquée, mais en même temps, elle garantissait un minimum de sécurité de règles dans l'échange international. Donc, il faut la bouger, mais la bousculer, la mettre à bas, c'est accroître les dangers de chaos économiques qui viennent s'ajouter à toutes les incertitudes politiques dans lesquelles nous sommes. On reviendra tout à l'heure, sans doute, sur la stratégie poursuivie par Trump, mais ce qui est très inquiétant, c'est qu'on a l'impression qu'il veut mettre à bas, l'ordre économique en se disant que, avec la puissance des États-Unis et des accords bilatéraux, il s'en tirera mieux. Ce en quoi, je pense, il fait une grave erreur, non seulement pour l'économie mondiale, mais pour les États-Unis.
Mais l'OMC, c'était l'incarnation, pour beaucoup de gens, d'un espèce de Moloch ultralibéral qui dérégulait l'économie, qui ouvrait les frontières à tout va. Est-ce que un peu de protectionnisme réintroduit dans l'économie mondiale, ça n'est pas une bonne chose, Benjamin Correa?
Il y avait deux limitations, à mon avis, à l'OMC. Deux limitations essentielles. C'est l'absence de prise en considération de clauses environnementales et l'absence de prise en considération de clauses sociales qui limitent le dumping. Et donc, aller dans ce sens aurait été une bonne chose. Mais c'est pas ça qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il démantèle l'ordre économique international au profit de mesures américaines unilatérales. Je pense pas qu'on va y gagner.
Alors, Pascal Leprêtre, ce que Akiko Suhaizenman expliquait tout à l'heure, c'est ce passage en permanence des pièces détachées le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ces allers-retours, ce qu'on appelle des chaînes de valeur, n'est-ce pas? Pascal Leprêtre, ça c'est quelque chose que vous connaissez dans votre fédération pour vos sous-traitants avec l'Union européenne, cette circulation permanente des pièces détachées?
Absolument. Nous sommes des industries traditionnellement exportatrices de l'ordre de 40% et je dirais ça peut monter jusqu'à 60% en exportation indirecte, donc des pièces qui vont être vendues dans des équipements qui eux seront exportés. Et nous dégageons un excédent commercial depuis de très nombreuses années. Et c'est vrai que nous, par exemple, nous alimentons assez fortement les industries allemandes. Donc ce passage entre deux pays, en Europe c'est une circulation qui maintenant est devenue courante, commune, hein, les échanges intracommunautaires sont de grande importance, donc c'est comme si on imaginait d'avoir des droits ou cette impossibilité d'échange entre la France et l'Allemagne, sachant que l'Allemagne, tous les pays de l'Europe travaillent pour l'Allemagne.
Comme tous les pays de l'ALENA travaillent pour les États-Unis, ou travaillent les uns pour les autres.
Travaillent les uns pour les autres, je dirais cela. Mais l'ALENA a été utilisé par Trump et beaucoup comme avant même la Chine, comme étant quelque chose qui a avalé les emplois des Américains et les a délocalisés, les a emmenés au Mexique. De nouveau, quand je parlais de commerce et inégalité, on touche là à quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'il y a une vision macroéconomique en disant, on pense que c'est peut-être 40 000 emplois qui ont été détruits, manufacturiers, par an, qui sont détruits par l'ALENA. 40 000 emplois, par rapport à 4 millions créé, détruit par an aux États-Unis en manufacturier, par an, sur 100 millions d'emplois industriels. Donc, un macroéconomiste se dit, mais c'est petit, ça. Mais dans une ville où il y a, toute petite ville, où il y a l'usine, la seule usine qui ferme, 200 emplois qui partent, là, c'est important. Donc, commerce et inégalité, ça veut aussi dire qu'il faut il faut essayer de comprendre cette vision plutôt micro, localisée des inégalités.
Alors en tout cas, au Mexique, on s'inquiète évidemment beaucoup de la nouvelle politique économique américaine. Depuis l'ALENA, qui a été signé en 1994, l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord, l'automobile est devenu le principal secteur exportateur du Mexique. 3,5 millions de véhicules produits, plus de 80% de la production est exportée, surtout vers les États-Unis. Ce secteur stratégique emploie 2 millions de personnes, sous-traitants compris, et désormais c'est l'inquiétude, par exemple à Toluca, à une heure de Mexico, où plusieurs milliers de personnes vivent de la construction automobile. Toluca en danger, c'est un reportage éco d'ici, éco d'ailleurs, signé Émilie Barraza à Mexico.
L'entreprise Innovax tourne à plein régime. Dans l'atelier, les ordinateurs des ingénieurs côtoient d'immenses machines de pointe manipulées par de jeunes techniciens.
Là, vous voyez, les ingénieurs sont en train de programmer une pièce. Ce sera un outil pour creuser des fentes sur les étriers de frein. Ce sont eux qui développent toute l'ingénierie d'Innovax.
L'ingénieur Gabriel Moreno est très fier d'ouvrir les portes de sa PME. Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de dispositifs de circuits hydrauliques qui serviront à fabriquer les composants d'une voiture, comme les freins par exemple. Une technologie de pointe qu'il a développée petit à petit depuis les années 90 grâce au libre-échange.
L'industrie automobile était moins développée avant les années 90. Elle a connu un boom grâce à l'ALENA. Maintenant, nous avons des clients français, italiens, mais surtout des américains. Et nos clients européens vendent eux-mêmes aux américains.
Un secteur automobile mexicain très dynamique qui emploie plus de 5000 personnes dans la vallée de Toluca et plus de 2 millions à l'échelle nationale. Mais tout cela est désormais menacé par le protectionnisme de Donald Trump aux États-Unis. Comme beaucoup d'industriels mexicains, Gabriel Moreno est très inquiet pour les années à suivre.
Ça va être difficile car il va falloir protéger nos salariés, conserver les emplois, il va falloir trouver des alternatives. C'est un défi très important, mais ça va nous obliger à moins dépendre de l'industrie des États-Unis, à développer notre propre technologie, surtout dans le secteur automobile, dans l'électronique, parce qu'on a la main-d'œuvre qualifiée et les connaissances pour le faire.
Les 46 salariés d'Innovax, ce sont presque tous des techniciens ou des ingénieurs hautement spécialisés, formés dans les universités polytechniques du pays. À Toluca, il y en a une justement. Louis Daniel a 19 ans, il étudie là-bas, il souhaite se spécialiser dans le design automobile. Pour lui, le dynamisme de l'industrie dans la région est un atout pour la jeunesse mexicaine.
Ici, on peut faire des stages dans les entreprises installées dans la région, chez Nissan, chez Bosch par exemple. L'université est liée aux industriels de la vallée de Toluca. Grâce à ça, on développe notre région et on montre à Trump que nous valons bien plus que ce qu'il dit de nous. Le Mexique regorge de jeunes talentueux qui innovent.
Mais cette richesse est en péril désormais. Les 300 sous-traitants de l'automobile de la vallée de Toluca espèrent obtenir le soutien de la part du gouvernement mexicain. Le temps de pouvoir diversifier les clients et ainsi moins dépendre des exportations en direction des États-Unis.
Un reportage éco-dissico d'ailleurs signé Émilie Barraza à Mexico. Akikos Weisenman, ces emplois mexicains, ils sont vraiment sous la menace du protectionnisme de Trump ?
On peut le craindre, oui, tout à fait. C'est comme, c'est exactement l'exemple donné par Madame Le Prêtre tout à l'heure. C'est comme si entre la France et l'Allemagne, il y avait un mur. Et le Mexique a attiré beaucoup d'investissements directs étrangers, notamment et beaucoup d'Européens, par exemple, qui voulaient essayer de construire au Mexique des automobiles qui pourraient être exportées aux États-Unis. Ça aussi, ces effets indirects, ça sera moins intéressant, le Mexique tout seul, grand pays, avec beaucoup de gens, mais pauvres, s'ils ne sont plus la porte vers les États-Unis.
Benjamin Coriat, c'est une menace directe ?
Oui, bon, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'un certain nombre d'entreprises mexicaines, dont celles que vous avez interviewées, qui ont atteint un niveau de technologie suffisant, vont survivre et vont s'adapter, parce que à ce moment-là, on sera obligé de passer par eux, parce qu'il y a une compétence. Mais beaucoup d'entreprises qui sont là uniquement, précisément parce que c'est porte ouverte sur le marché américain, ou des entreprises qui sont là uniquement pour des raisons de coût de main-d'œuvre, elles auront moins de raisons de se trouver au Mexique. Mais si vous voulez, ce qui est ennuyeux, c'est que c'est un nouvel ordre économique qui est en route. Et c'est ça qui est inquiétant.
Alors, ce nouvel ordre économique mondial, nous en parlerons dans la deuxième partie de cette émission. Nous continuerons à parler de Donald Trump et de sa politique économique protectionniste dans 3 minutes, après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Retrouvez Écho d'ici, écho d'ailleurs après le flash info avec Orange Monnaie. Orange. Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous propose Écho d'ici, écho d'ailleurs. Orange.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, consacrée au retour en force du protectionnisme. Deux évolutions majeures nous invitent à nous pencher sur cette question. Les premières mesures de politique économique annoncées par Donald Trump à la Maison-Blanche et la préparation par Theresa May de la sortie britannique de l'Union européenne. Trois invités pour expliquer et débattre. Pascal Leprêtre de la Fédération Forge, Fonderie, Moules et Prototypes de France. Akiko Souaizenman, professeur à l'École d'économie de Paris. Et Benjamin Coriat, professeur à l'Université Paris 13, membre du collectif des économistes atterrés. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons évoqué les angoisses mexicaines face à la politique économique de Donald Trump. Mais Trump a aussi déchiré l'accord de partenariat transpacifique que son prédécesseur Obama avait signé. Alors on a l'impression comme ça que le protectionnisme fait son irruption dans l'économie mondiale, mais le protectionnisme, les États-Unis comme la Chine, Akiko Souaizenman, l'ont déjà pratiqué, ça n'est pas une nouveauté.
Tout à fait. Donc la Chine pratique une politique protectionniste sur son marché intérieur et une stratégie de promotion des exportations et d'achat d'entreprises, parfois d'entreprises stratégiques aux États-Unis ou en Allemagne, dont on parle souvent dans l'actualité. Les États-Unis, l'exemple qui me vient à l'esprit est celui de vis-à-vis de mon pays, le Japon, dans les années 80. Le Japon, c'était l'ancienne Chine. Hein, on a peut-être du mal à l'imaginer maintenant.
Qu'est-ce que vous voulez dire par l'ancienne Chine?
C'était le péril jaune, toutes les importations américaines viennent du Japon. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une pression des États-Unis sur le taux de change pour que le Japon apprécie son taux de change. Et deuxièmement, ils ont instauré aussi unilatéralement à l'époque quelque chose qui s'appelle les restrictions volontaires aux exportations, en demandant aux Japonais un objectif de cantonnement de 30% du marché américain pour les automobiles japonaises et pas plus. Qu'ont fait les Japonais? Ils ont juste monté en gamme. Donc finalement, ils ont rempli leur quota. C'était un quota aux exportations. Ils ont rempli leur quota en vendant des voitures beaucoup plus chères. Donc les Japonais se sont retrouvés, les consommateurs américains un peu moins. Et c'était la fin de l'histoire. C'est quelque chose qui s'est retourné contre les États-Unis.
Benjamin Coriat, le protectionnisme, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment de tout temps dans l'économie mondiale?
On le voit ressurgir de période en période et exercer ses effets. Bon, dans le cas des États-Unis, on peut distinguer trois périodes, si on peut dire. Hein. Parce que c'est important de voir que Trump démarre pas de rien. Je veux dire, c'est une partie des gènes des États-Unis. Bon, d'abord, ils ont pratiqué un protectionnisme infernal après leur indépendance contre l'Angleterre pour assurer leur propre développement. Ensuite, il y a eu une période qui est ce qu'on a appelé la première mondialisation, hein, 1890-1920-1930, pour parler vite. Deuxième phase de protectionnisme, c'est après les années 30, donc après la crise. Et il y a des outils protectionnistes américains qui datent de cette époque-là. Le Buy American Act, 1933, qui oblige l'argent public à acheter des produits purement américains. On n'a pas ça en Europe, hein, d'un côté. Et de l'autre côté, la loi Smoot de 1930, qui introduit toute une série de mesures protectionnistes. Donc, la troisième période, je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit, ça a été plus ciblé, ça a été contre le Japon. Et là, on a donc une quatrième période. Donc, si vous voulez, il y a une histoire hein, du protectionnisme américain. Simplement, cette phase, elle a l'air de mettre en cause pas seulement la politique américaine, mais de viser un démantèlement de l'ordre économique international. C'est ça qui est préoccupant. Parce que ce qui est derrière, c'est en même temps une dérégulation financière accentuée. Wall Street a fait des bons parce qu'il se félicite implicite du retour de la déréglementation financière. Et ce qui est derrière, c'est différentes formes de dumping fiscal, parce que visiblement le troisième élément de la politique de Trump, c'est pas pour rien que je fais l'analogie, j'y reviendrai. Donc le troisième élément de la politique de Trump, c'est un dumping pour tout ce qui concerne la fiscalité et les aspects relatifs à l'épargne. Voilà, donc si vous voulez, c'est vraiment une nouvelle période, hein. Si ça se confirme, c'est vraiment une nouvelle période. Avec trois piliers, hein, je répète, qui est le protectionnisme, le dumping fiscal et la déréglementation financière. Et là, on va avoir tout à fait un nouvel ordre économique international.
Pascal Leprêtre, vous, dans votre fédération, est-ce que vous en rêvez pas du protectionnisme d'une certaine manière? Est-ce que ce Buy American Act, qui date déjà des années 1930, qui a presque un siècle, vous ne voudriez pas l'équivalent en Europe d'un Buy European Act, d'un Buy d'un acheter français, on en parle souvent? Est-ce que le protectionnisme ne bénéficierait pas à vos adhérents?
Alors, je voudrais déjà répondre que les instruments de défense commerciale existent depuis un certain temps, et notamment en ce qui concerne les droits anti-dumping qui sont utilisés par l'Europe aussi bien et également par les États-Unis pour rééquilibrer des coûts de revient qui ne sont pas les mêmes, hein, entre les différents pays. Et on voit une différence de pratique entre l'Europe et les États-Unis, puisque là où l'Europe met quelques dizaines de pourcents de droits, les États-Unis sont parfois à quelques centaines de pourcents. Donc déjà, la pratique n'était pas la même. Ensuite, pour répondre plus directement à votre question, depuis quelques années, on a un label que les entreprises industrielles peuvent obtenir, c'est celui du « Made in France ». C'est totalement nouveau et ça permet de montrer qu'il y a un contenu français, un contenu de production française.
Mais alors ça, c'est intéressant, parce que ce que vous nous dites, c'est que le protectionnisme, ça n'est pas seulement des droits de douane, ça peut être aussi d'autres mesures plus subtiles que simplement multiplier le prix du produit importé par 3, 4 ou 20.
Moi, peut-être du côté producteur, je parlerai aussi d'avoir des filières industrielles qui continuent à exister dans les pays développés, qui puissent assurer la pérennité aussi d'un certain nombre de produits, d'emplois et une certaine indépendance industrielle.
Mais donc, alors, vous bénéficiez du protectionnisme.
On est sur des positions à double sens. En tant qu'exportateur, on apprécie de pouvoir le faire à des coûts moins élevés quand il n'y a pas de droits de douane. Évidemment que ça facilite, puisque ça rend les produits moins chers lorsqu'ils arrivent sur un marché. Mais en tant que producteur, nous avons besoin, compte tenu de la différence de des coûts de production dans le monde, de certaines mesures qui nous permettent de continuer à être à produire en France. Il faut savoir que dans nos industries, la part main-d'œuvre représente de 20 à 40%. C'est énorme. Donc, si nous mettons en comparaison le prix de nos produits avec dans des pays qui ont non seulement un coût de main-d'œuvre moindre, mais aussi qui n'ont pas à suivre des réglementations environnementales dont nous bénéficions tous en tant que citoyens, mais il y a beaucoup de constituants du prix de revient qui n'existent pas parce qu'ils ne sont pas comptabilisés dans un certain nombre de pays de la planète. Donc, on ne peut pas parler de comparaison sur une juste comparaison. Hein. Mmh. Il y a une distorsion.
Alors, on va voir un autre exemple. On a beaucoup parlé des États-Unis. Il y a un autre pays qui applique en ce moment des politiques protectionnistes, en tout cas au moins un, c'est le Nigeria. Depuis 2 ans, la première puissance économique africaine limite les importations de produits agricoles ou manufacturés. La liste n'est d'ailleurs pas connue. Dernier produit en date, depuis le 1er janvier, les voitures ne peuvent plus être importées par voie terrestre via la frontière avec le Bénin voisin, car au passage, les taxes douanières sont souvent oubliées en quelque sorte. Un manque à gagner considérable pour le budget de la Fédération nigériane, mais cette mesure protectionniste ne fait pas que des heureux à Lagos. C'est un reportage Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs, signé Moïse Gomis.
Voitures, bus, camions, véhicules utilitaires, tout ce qui roule à quatre roues s'achète et se vend sur Berger Market. Situé dans la zone portuaire, c'est le plus grand marché automobile à ciel ouvert de Lagos. Au kilo, y gère un emplacement depuis plus de 15 ans. Comme ses voisins vendeurs, au kilo s'interroge sur son avenir à court terme.
Regardez l'état du marché. Est-ce que vous voyez des transactions? Pourtant, nous sommes samedi aujourd'hui et les gens sont normalement habitués à venir et à acheter. Tout ça, c'est à cause du taux de change qui affecte tout le monde. Avant, on vendait des voitures, 30 voire 50 voitures par mois. Maintenant, on en vend moins de 10. Vous comprenez? On est mal.
Ici, la plupart des véhicules sont d'occasion. Après une première vie en Europe, en Amérique ou en Asie, ces 4x4 et ces berlines ont franchi la frontière par la route en provenance du port de Cotonou.
Nos relations avec les Béninois sont bonnes. Nous faisons encore des affaires avec eux. Sans eux, il n'y aurait plus de business. Là, avec cette mesure, c'est comme si on nous avait coupé ce lien. Vous savez, cette évolution n'est pas bonne pour aucun de nos deux pays. C'est gagnant-gagnant. Nous, on va là-bas, on change des Naira contre des francs CFA et on achète des véhicules.
Ahmed faisait jusque-là au moins 6 fois par an le trajet Lagos-Cotonou-Lagos. De façon informelle, il travaillait avec des amis nigérians vivant aux États-Unis ou en Malaisie. Ses contacts lui envoyaient par conteneur des véhicules. Ahmed les récupérait au Bénin pour les vendre au Nigeria. Depuis le 1er janvier, le port de Lagos est désormais la seule voie d'entrée autorisée.
Franchement, je ne vais pas vous mentir. Je perds de l'argent, disons entre 300 à 450 euros au moins. Mais j'espère que dans les 3, 4, 5 prochains mois, les choses vont se remettre dans l'ordre.
Ahmed s'est déjà adapté à la nouvelle donne. Il cherche désormais des véhicules d'occasion déjà immatriculés au Nigeria.
Un reportage signé Moïse Gomis à Lagos, dans Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs sur RFI. Nous parlons protectionnisme avec trois invités, Akiko Souaïzenman de l'École d'économie de Paris, Pascal Leprêtre de la Fédération Forge, Fonderie, Moules et Prototypes, et Benjamin Coriat, professeur d'économie à l'Université Paris 13. Alors, Pascal Leprêtre, je vous voyais écouter très attentivement ce reportage. On est très loin de la réalité française ou européenne. Pourtant, ça a l'air de vous parler beaucoup.
Oui, nous ne sommes pas aussi loin que cela, puisque l'Europe est confrontée, pour appliquer les droits de douane ou les droits anti-dumping, elle est également confrontée à l'identification des produits entrants et notamment de l'application des droits sur des nomenclatures douanières.
C'est-à-dire ?
Eh bien, elle fait face à des contournements des mesures. On voit dans le Nigeria que l'on oblige à passer les voitures par une certaine porte d'entrée, oui, plutôt qu'une autre. Une porte d'entrée qui permet de mieux les contrôler. Nous voyons que dans les mesures de contournement au regard des droits de douane ou des droits anti-dumping, les pays exportateurs vont utiliser d'autres voies d'entrée, voire d'autres codes douaniers. Et les mesures de simplification de la nomenclature douanière mises en place par l'Union européenne fait que on se retrouve avec des codes douaniers un peu fourre-tout et avec une identification très difficile des produits entrants.
C'est-à-dire que l'administration douanière peut laisser passer avec des droits de douane inférieurs à ce qu'ils devraient être des produits qui vous font concurrence, c'est ça ?
Qui normalement sont soumis à droits de douane. Mais l'administration douanière fait des vérifications en partie sur des documents douaniers, à condition qu'ils soient bien codifiés, et très peu sur des vérifications réelles.
Akiko Souaïzenman, le protectionnisme, ça a du bon quand même, non ?
Enfin, dans le cas du Nigeria, c'est quelque chose que je ne dirais pas. Enfin, donc le Nigeria, pour remettre dans le contexte, hein, donc c'est un grand pays exportateur de pétrole. Là, le pétrole est mal en point, donc ils n'ont plus de devises. Donc maintenant, ils essaient d'avoir des devises, de les trouver là où ils peuvent et de les rationner. Donc c'est pour ça qu'ils tapent à peu près sur toutes les importations pour essayer d'économiser les devises. pour soutenir leur monnaie.
Et donc c'est pas, ça n'est pas destiné à soutenir une industrie locale.
Alors ça c'est une très bonne question, parce qu'en fait dans ces pays-là, et heureusement le Nigeria c'est pas encore l'Union européenne, leur seule recette fiscale, comme ils peuvent pas avoir d'impôt sur le revenu, leur seule recette fiscale c'est les droits de douane. Et donc finalement les droits de douane deviennent l'alpha et l'oméga de la politique économique. Vous voulez une politique agricole, vous tapez sur les droits de douane. Vous voulez une politique industrielle, vous réduisez les droits de douane. Et ça ne peut pas servir à ça, les droits de douane. Il faut un peu de stabilité, il faut que les investisseurs puissent avoir un horizon temporel pour investir. Donc le Nigeria, c'est l'exemple absolu de substitution aux importations et de fine-tuning, comme on dit, de changer chaque fois les petites briques, une petite brique à gauche, une petite brique à droite, et ça, avec beaucoup, beaucoup de corruption. Il faut dire aussi que la frontière béninoise-nigérienne, c'est une vraie passoire, et le port de Lagos aussi, donc avec une énorme corruption.
Benjamin Coriat, ces politiques économiques protectionnistes, je repose la question, elles ont du bon malgré tout. Tout à l'heure, vous évoquiez les politiques protectionnistes mises en place aux États-Unis. Est-ce qu'elles ont nui à l'économie mondiale dans le passé ?
Ah bah oui, incontestablement. Ça veut dire que les politiques protectionnistes qui ont été mises en place dans les années 30 et pas seulement aux États-Unis, je pense qu'elles ont à voir avec la montée et l'organisation des fascismes, des populismes et avec la guerre mondiale. Donc je veux dire, clairement, ça n'a pas été la bonne réponse. Clairement, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, sans pousser les choses jusqu'à ce drame, parce que je pense que c'est les vraies questions dont il faut discuter, il y a pas l'ombre d'un doute sur le fait que la mondialisation libérale, notamment dans sa dimension financière, mais vous observerez que c'est pas ça que va mettre en cause Trump, parce que il prévoit des mesures de déréglementation financière, donc clairement, elle est allée trop loin. Et clairement, il faut revenir à davantage de régulation dans l'échange international. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, moi, ce que je pense, et ce qu'on est un certain nombre à penser, c'est qu'il y a deux grands domaines dans lesquels il faut faire monter les réglementations et la régulation. On va dire trois. Un, précisément en matière financière et fiscale, on ne peut pas continuer avec la guerre à l'incitation des délocalisations dans les paradis fiscaux, etc. Là, clairement, il faut faire monter la réglementation, il n'y a aucun doute là-dessus, et c'est pas du tout ce que
prépare Trump. Mais ça, c'est du protectionnisme.
Je dis pas que c'est du protectionnisme, moi. Moi, je dis qu'il faut faire monter les réglementations en ce qui concerne l'échange international.
C'est-à-dire qu'il faut recréer des barrières douanières, des frontières.
Oui, il faut recréer des interdits. Il faut fermer les paradis fiscaux. Voilà, ça, c'est absolument indispensable. Parce que, mettons-nous à la place de Trump. Les plus grandes multinationales de l'information sont américaines. Google, Apple, Amazon, etc. Elles sont toutes localisées en Irlande. Pourquoi ? Parce que l'Irlande est le pays qui, à travers, d'une part, les impôts et d'autre part, les rescrits, c'est-à-dire les arrangements derrière la porte, créent les meilleures conditions. Il faut mettre fin à ça, c'est évident. Et l'Europe, les États-Unis, les peuples du Sud, tout le monde en bénéficiera.
Pascal Leprêtre, vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, je suis d'accord dans le sens où un libre-échange sans régulation ne me semble ni profitable aux pays où les industries sont déjà bien développées qu'aux pays qui cherchent à développer leurs industries. Et en plus, les industriels ont besoin d'un besoin vital de stabilité et de limiter au maximum les incertitudes.
Alors, on va partir en Inde, parce que c'est un pays qui est témoin de la volonté internationale, qui est toujours là, de continuer à ouvrir l'économie internationale. Depuis plusieurs années, le gouvernement indien est lancé dans une opération de conquête des opérateurs étrangers. Le premier ministre indien, Narendra Modi, est là depuis 2014, et il cherche à faire venir des investisseurs du monde entier pour dynamiser l'industrie indienne. Un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Sébastien Farsi à New Delhi.
En juin dernier, le gouvernement indien annonce une série de mesures pour faciliter les investissements étrangers dans trois secteurs, la production pharmaceutique, une partie du commerce de détail et la défense. Ces décisions renforcent la libéralisation du marché entamée il y a plusieurs années. Aujourd'hui, des étrangers peuvent détenir entre 74 et 100% d'une société locale dans la plupart des secteurs. Amer Farouki est avocat pour le cabinet Adamas qui aide à l'implantation d'entreprises françaises en Inde.
Il y a de plus en plus d'entreprises étrangères qui s'installent en Inde. Des grosses multinationales comme Decathlon ou même récemment la société Arkema qui est spécialisée dans la chimie qui va s'installer justement à Navi Mumbai. Et pourquoi Navi Mumbai? Parce que Navi Mumbai fait partie, nous on appelle ça une zone franche. Les premières années, ils ne payeront pas grosso modo d'impôts. Au-delà des entreprises françaises, on voit beaucoup d'entreprises, même chinoises, qui viennent s'installer, comme Xiaomi, Oppo ou Huawei, s'installer et faire leurs unités de production en Inde.
Le Premier ministre Narendra Modi a ainsi lancé il y a 2 ans et demi sa politique du Make in India, dont le but est de simplifier les procédures d'investissement traditionnellement longues et compliquées. Amer Farouki estime que cela commence à porter ses fruits.
Tout a été digitalisé. Du coup, cet obstacle du fonctionnaire qui faisait toute la paperasse, elle n'existe plus. Que ce soit pour de l'implantation ou même pour ouvrir un compte bancaire, ça peut se faire dans la journée.
L'Inde reste cependant bloquée à la 130e place dans le classement de la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires derrière des pays comme le Sri Lanka, l'Ouganda ou le Ghana. La structure fédérale indienne complique en effet les démarches et il est donc judicieux de bien choisir dans quel état régional s'installer, explique Manoj Pant, professeur d'économie à l'université Jawaharlal Nehru.
Les États sont devenus de plus en plus importants car le gouvernement central ne peut pas libéraliser beaucoup plus. Vous allez donc voir davantage de régions impliquées dans l'attrait des investissements étrangers et même se concurrencer entre elles. C'est là qu'il y a encore de la marge et c'est donc cela que les investisseurs doivent suivre.
Le dernier grand secteur fermé aux étrangers est le commerce de détail en supermarché et un géant comme Carrefour a récemment fermé ses bureaux en Inde après plusieurs années à attendre son ouverture.
Un reportage signé Sébastien Farsi, Akiko Soa-Eisenman, je voyais prendre des notes pendant ce reportage. Qu'est-ce que vous inspire ?
Un des exemples du fait que le différentiel de salaire ou de prix ne suffit pas pour attirer des entreprises. Il faut autre chose, il faut de l'électricité, des routes, une main d'œuvre qualifiée. Et d'autre part, si l'Inde s'oriente vers les zones franches, donc vers une sorte de dumping fiscal localisé, le dumping fiscal, c'est aussi quelque chose qui est dangereux. Parce que ça peut être remis en cause, parce que ça fausse la concurrence, parce que ce n'est pas un facteur structurel de compétitivité.
Mais le dumping fiscal, c'est une manière d'attirer les entreprises étrangères pour produire local, pour consommer local.
Le cas d'Irlande montre bien que c'est pas du tout le cas. Hein. C'est uniquement pour obtenir la localisation. Enfin, dans un certain nombre de cas, ouais. Hein. C'est uniquement un moyen d'obtenir la localisation des sièges des multinationales qui sinon viendraient jamais là. Et même en abaissant les taux d'impôts, le bénéfice pour le pays en général, c'est des petits pays, et évidemment tout bénéfice parce que sinon ils les auraient pas ces entreprises-là. Donc, je veux dire, ça c'est le fléau de l'économie mondiale, les paradis fiscaux. Il faut y mettre fin.
Mais sur mondialisation, je pense qu'il faut... Mondialisation, c'est quand même un terme un peu attrape-tout. Donc, je crois qu'il faut distinguer. Oui. Il y a la mondialisation financière, comme vous dites. Donc, dans la mondialisation financière, il y a les flux de portefeuille extrêmement court terme, de moins d'un an, qui partent et qui bougent, et qui déstabilisent des économies, le côté macroéconomique des économies. Il y a ces monopoles, les GAFA, ces monopoles
Google,
Internet,
Amazon, Facebook, etc.
D'énormes multinationales, beaucoup plus importantes que les États, et sur lesquelles il faut commencer à agir, l'Union européenne commence à agir. Et il y a la mondialisation d'où nous sommes partis, qui sont les entreprises manufacturières. Et cette mondialisation des biens, pas des services, des biens, c'est important, mais c'est pas si important pour une économie, pour toute une économie. Pour les États-Unis, l'emploi manufacturier, ça doit être 10% de l'emploi. Il reste tout le reste, c'est du non-manufacturier. C'est des services,
Et ça, c'est souvent du non-échangeable. Et là-dedans, il faut agir. Et ça, pour agir, c'est du ressort des États.
Pascal Leprêtre.
La politique de transfert.
Je réagis. Je dirais que toute distorsion de concurrence entraîne des flux de production, entraîne des délocalisations de production. On a connu ce phénomène au sein de l'Europe même, où de manière régulée, les aides étaient attribuées à certains pays entrant dans l'Europe. Et je dis de manière régulée. Et à chaque fois, on a vu une délocalisation, un transfert de production entre les pays les plus anciens de l'Europe vers les nouveaux entrants.
Alors, Benjamin Coriat, pour la dernière intervention, relativement brève, s'il vous plaît, Benjamin, de cette émission.
Alors, dernière intervention, moi je vais aller vite. Le passage ou le retour vers du protectionnisme face à Trump serait une catastrophe. Voilà, je suis très clair.
Bien, maintenant, c'est-à-dire que d'autres pays ou d'autres blocs comme l'Union européenne...
Ils vont être obligés, parce qu'ils vont pas regarder Trump faire son cinéma et détruire les échanges internationaux au bénéfice des États-Unis. Donc, je veux dire, il y aura des rétorsions. Par contre, il y a trois domaines absolument essentiels dans lesquels il faut qu'il y ait, au niveau international si nécessaire, des régulations prises. Un, lutter contre le dumping fiscal. Deux, lutter contre le dumping social. Il est indispensable qu'il y ait des normes sur le fait que on peut pas autoriser l'exportation du travail des enfants, du travail des prisonniers. C'est pas déjà fait, c'est absolument pas respecté. Troisièmement, le dumping environnemental. Si ces trois choses étaient respectées, on aurait beaucoup moins de problèmes. C'est pas respecté.
Merci Benjamin Coriat, merci Akiko Suwa-Eisenman, merci Pascal Leprêtre. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez bien sûr nous réécouter sur le site RFI.fr et y retrouver les reportages diffusés dans le courant de l'émission. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous a proposé Écho d'ici, écho d'ailleurs. Orange.